Carrefour.
Quand vous me dites
« C'est génial les capsules, c'est toujours la bonne dose !»
Eh bien j'ai juste envie de vous dire qu'avec 34% de remise immédiate, la lessive en capsule 3 en 1 skip 26 lavages est à 6,84€ seulement au lieu de 10,37€. Et c'est jusqu'au 28 avril chez Carrefour, Carrefour Market et leur drive. Carrefour, on a tous droit au meilleur. 549 grammes, soit 12,46€ le kilo, détails sur carrefour.fr. Produits dangereux, respectez les précautions d'emploi.
Vous écoutez
RMC. RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Estelle Midi sur RMC, RMC Story, canal 23 de la TNT. On est ravis de démarrer cette nouvelle semaine avec vous et avec Rémi Barry. Salut Rémi.
Bonjour Estelle et bonjour à tous.
Rémi Barry qui lira tous vos messages, bien sûr, sur l'appli RMC.
Il y en a déjà.
On est également là avec l'homme du lundi, hein. Perico les gars, j'en ai Sam Marianne. Salut Perico.
J'ai deux adversaires de taille aujourd'hui.
Tout à fait.
Brieux et Moreau, mais je vais les mater.
Je ne sais pas. En tout cas, on parlera de l'identité régionale avec vous à 14h, Perico. J'ai hâte d'être à ce débat. On est avec le journaliste média, mais pas que, Thierry Moreau. Salut Thierry.
Bonjour Estelle, bonjour à toutes et à tous. Et plein de bienveillance pour Perico.
Oui, mais ce n'est pas son genre, la bienveillance à Perico. Et puis, on est avec le désormais propriétaire de gîte, Jérôme Lavrieux. Salut Jérôme.
Bonjour.
On va parler de pénurie d'eau avec vous. Ça va vous arranger. Ouais, bah oui, je sais. Au sommaire, aujourd'hui, dans Estelle Midi, le gouvernement qui ne veut pas utiliser le 49.3 pour faire passer la réforme des retraites, est-ce un énorme risque? On attend vos commentaires au 32.16 et sur l'appli RMC. À midi et demi, la pénurie d'eau qui s'annonce en France à cause d'un hiver très sec. Êtes-vous prêt à vous rationner? À 13h, l'Allemagne qui supprime une grande partie de ses ZFE. Doit-on faire pareil en France et arrêter les zones à faible émission? À 13h30, ce sera le meilleur du jour sur RMC, le zapping. On va parler à nouveau de la grève des éboueurs. À 14h, la fin des lieux-dits dans les communes, des langues régionales de moins en moins utilisées. Est-on en train de perdre nos identités régionales? Là encore, on vous attend au 32-16 et puis on terminera avec les immanquables, les infos qu'il ne fallait pas rater aujourd'hui.
RMC Estelle Midi.
Midi 4 sur RMC et on va démarrer Estelle Midi avec l'actualité du jour. Et c'est le Sénat qui a adopté le projet de loi sur la réforme des retraites à une large majorité samedi. Le texte doit désormais passer en commission mixte paritaire puis devant les députés. Et alors que planait le spectre de l'utilisation du 49.3 pour faire passer le texte à l'Assemblée, Olivier Véran, porte-parole du gouvernement, a rejeté cette option. Écoutez.
Nous ne voulons pas de 49.3. Nous souhaitons transformer notre majorité relative en majorité absolue sur le texte des retraites et nous nous sommes donné les moyens de le faire en faisant évoluer progressivement notre projet. Je vous rappelle qu'initialement, on parlait d'un départ à 65 ans, c'est aujourd'hui 64 ans. Et puis nous avons introduit par voie d'amendement, à l'écoute des syndicats, des forces politiques, notamment de la majorité, mais aussi des oppositions, des mesures fortes, des mesures importantes. C'est tout ce travail que nous avons effectué qui devra porter ses fruits cette semaine en commission mixte paritaire, puis en vote définitif.
Et la grande question, Rémi Barré, c'est le gouvernement peut-il vraiment se passer d'un 49.3 pour faire passer sa réforme?
Rien n'est moins sûr, hein. Olivier Véran, on vient de l'entendre, c'est un peu la méthode Coué. Si, ça va passer, on n'utilisera pas le 49.3. Mais tout repose en fait sur l'attitude des Républicains. Selon les derniers décomptes d'intention de vote des députés, le texte sur la réforme des retraites pourrait être adopté, donc par vote normal, classique, sans passer par le 49.3, avec seulement 10 voix d'avance. C'est rien, ça peut donc passer. Ric-rac, et le risque de fiasco, en tout cas, lui, il existe bel et bien. Conséquence, si l'option du passage en force par le biais du 49.3, on l'a entendu, n'est pas souhaitée, elle n'est pas pour autant totalement écartée. Elisabeth Borne veut l'éviter, peur d'alimenter la contestation sociale, mais aussi par crainte d'une motion de censure, parce que depuis quelques jours, des députés de gauche et de droite travaillent à un texte en commun dans l'espoir de faire tomber le gouvernement d'Elisabeth Borne. Vote ou 49.3, ce qui est sûr, c'est que les jours, la semaine qui débute, sera donc décisive.
Se passer d'un 49.3, est-ce que c'est un trop gros risque, Perico les gars?
La formule du ministre, on s'est donné les moyens, est à double sens, tant qu'ils les ont achetés.
Bon, alors, achetés...
Mais ils ont que ça. Quand je dis acheter, c'est pas avec espèce trébuchante. Oui, c'est voilà. Promesse de quelque chose, un poste au gouvernement, ou une promotion, ou un soutien aux prochaines élections législatives.
La buvette
gratuite. Je pensais que les 61 députés LR, s'il y avait une nouvelle, ils seraient 12 ou 15 maintenant. Tout se passe à la buvette. En tout cas, on est dans l'achat de voix par voix. 10, c'est énorme. Ah, alors effectivement, c'est fragile.
C'est très peu.
Ah, mais s'ils ont les 10 voix, la loi
est... Tu veux en être sûr?
Eh ben, en se donnant les moyens d'être sûr. Et vous savez, dans l'histoire du parlementarisme français, on a vu d'autres retournements mystérieux.
Ça va être la corruption, en fait, ce que vous dites.
Là, et attendez, il n'y a pas que ça. Il y a le canon sur la tempe ou le couteau sous la gorge des députés de la majorité qui sont réticents. Eux, ils ont été prévenus qu'ils seraient fusillés tout de suite. Voilà. Donc, haro. Alors bon, cela dit, c'est normal qu'une majorité Thierry Sophus, parce que j'utilise le terme fusillé, on sait qu'il y a une pression terrible sur la quinzaine de parlementaires de Renaissance et Modem qui ont une réticence et qui voudraient faire preuve de macronisme, c'est-à-dire de libre pensée. On ne, c'est pas un groupe Godillot. Depuis 2017, on a bien dit que c'était une majorité.
C'est la libre pensée.
Ah, le macronisme, ah, c'était, bien, le macronisme, c'était la République en marche. C'était des sensibilités différentes qui venaient, qui ne marcheraient pas au canon, qui ne marcheraient pas au Godillot, qui pourraient s'exprimer puisqu'ils représentaient le peuple français. Dans la réalité de la société, c'était pas la caste politique, c'était des citoyens qui devenaient députés. Eh ben, qu'on est jusqu'au bout. Et donc, s'il y a quelques députés de la majorité présidentielle qui ont une réticence ou qui auraient voté un texte un peu différent parce qu'ils ont fait beaucoup de propositions qui n'ont pas été retenues, eh bien, si ces gens-là votent pas, là, on les a prévenus que c'était le coup près immédiat. Et puis ensuite, les LR qui sont, je vais pas dire qu'ils sont corruptibles, mais la droite s'achète facilement en France. Pour quelques madeleines. Alors, c'est sûr, si on fait un bras d'honneur au président du groupe parlementaire, c'est plus compliqué. Voilà. Non, enfin, tout ça va être passionnant, on va être dans la cuisine, ça va être une grosse tambouille, et puis il y a toujours le 49-3, on passe à la motion de censure, dissolution de l'Assemblée nationale, et alors qui va gagner? Personne, c'est extraordinaire, un bordel encore plus grand. Donc là, je peux vous dire que pour nous, journalistes, commentateurs, ce sont quelques semaines de bonheur qui s'annoncent.
On espère presque que le 49-3 va pas...
Voilà, mais oui, bien sûr, on aura l'occasion de jouter avec Moreau et Lavrieux.
Jérôme Lavrieux, vous qui êtes toujours très proche de l'Assemblée nationale, mais concrètement, là, on est sûr que ça peut passer ou pas?
Ah, on est sûr de rien du tout.
Ah, d'accord.
Ouais. On est sûr de rien du tout. Je pense que c'est inédit dans l'histoire de la Ve République. Alors, je sais que maintenant, tout est historique, mais là, c'est inédit, puisque ça n'est jamais arrivé. Majorité relative, on va sur un texte qui est important, c'est un texte qui met les gens dans la rue, donc c'est forcément un texte important, et on ne sait pas ce que ça va donner. Entre 10 et une voix, on n'en sait rien. C'est pour ça que Véran, quand il dit... pour l'instant, on n'envisage pas le 49-3. C'est donner les moyens qu'il n'y ait pas de 49-3. Bah oui, parce qu'en fait, il fait pression. Parce que qui dit 49-3 dit motion de censure. Si la motion de censure passe, ça dit le gouvernement dégage et risque de dissolution.
Risque de dissolution.
Mais Macron mais là, a même annoncé qu'il dit ça.
Oui, mais...
Est-ce que tu veux faire d'autre?
Le dire toujours, le faire peut-être moins.
Oui.
Mais là où a tort Péricot, c'est sur quand son analyse sur les membres de la majorité, je suis désolé, ils n'ont pas besoin d'être achetés, les membres de la majorité, ni d'être menacés. Ils se sont présentés aux élections sur un programme qui est dire on va mettre la retraite à 65
c'est
ans.
Faux.
Ils auraient menti.
C'est faux.
Ah ben non, mais non, sinon il fallait dire qu'ils étaient contre le programme présidentiel.
Le débat a toujours eu lieu dans la majorité présidentielle.
Tout est copain du MoDem.
Le débat a toujours eu lieu dans la majorité présidentielle.
Ils se sont présentés
et il y en a qui sont furieux.
La réforme à 65 ans.
Non mais là, Jérôme, vous qui êtes proche quand même des LR, est-ce que là
je suis pas membre des LR, mais je travaille pour un député LR.
Exactement. Jérôme, est-ce que là vous sentez en tout cas d'après ce que vous voyez, ce que vous entendez, qu'il y a quand même pas mal de LR qui seraient prêts à voter contre cette réforme?
Ah bah, y en a un petit peu plus d'une trentaine qui veulent la voter. Il y en a une 10-12 qui sont absolument contre et le reste qui, pour l'instant,
Il en reste plus beaucoup, là.
10 qui s'abstiennent. C'est ceux-là qui sont les plus importants et on va voir quelle va être l'évolution de leur position. Parce qu'en fait, il y a juste un sujet, c'est que pour les députés LR, ça n'est plus, comme l'a dit Retailleau au Sénat, ça n'est plus le texte du gouvernement. C'est un texte qui a été construit et co-construit. Retailleau dit que c'est même lui qui est le rédacteur du texte maintenant. Donc, est-ce que des députés LR vont voter contre un texte LR? Est-ce qu'ils vont signer une motion de censure qui serait en fait faire la censure de la direction de LR? Je pense que ça va chauffer sous les casquettes et sous les chapeaux à plumes.
En tout cas, manifestement, aujourd'hui, selon une info BFM TV, il y a 189 voix sûres. Voilà, pour cette réforme, enfin, il en manque un peu pour avoir
la
majorité. Thierry Moreau, est-ce que pour vous c'est un trop gros risque pris par le gouvernement ou finalement le 49-3 ça fait partie de la loi, on y va quoi?
Absolument. Alors, d'abord, déjà, les comptes d'apothicaire, ça s'est fait en tout temps. Je me souviens de l'époque de Michel Rocard où son cabinet passait son temps à avoir des députés au téléphone.
Enfin, il faisait que des 49-3.
Et il y a beaucoup.
28 fois, je crois.
Et il y a beaucoup de textes qui sont passés à une dizaine, quinzaine de voix près sans utiliser le 49-3. C'est déjà arrivé et ça arrivera encore. Et puis ça remet le Parlement au centre du jeu. Moi, j'entends les oppositions dire oui, il y a des dénis de démocratie, etc. Là, le Parlement est vraiment au centre du jeu parce que c'est le Parlement qui va décider si oui ou non ça fonctionne. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Après, s'il y a 49-3, c'est un outil. Quand un un plombier a un écrou qui résiste, bah d'abord il essaie de mettre un peu d'huile dégrippante, puis si ça marche toujours pas, il prend une plus grosse pince, une pince un peu plus puissante pour desserrer son écrou. Et bah, le 49.3, c'est ça, ça fait partie des outils qui sont à la disposition du gouvernement. Et puis vraiment, si les oppositions sont tant vent debout que ça, ils n'ont qu'à voter la motion de censure qui sera présentée par le RN, par d'autres. A priori, le RN, ce sont des députés qui ont été élus par des électeurs, donc ils sont légitimes, ce sont des élus de la République. Donc si vraiment, vraiment, les oppositions de gauche sont vent debout contre cette réforme, ils font tomber le gouvernement en votant la motion de censure qui va évidemment suivre la sortie du 49.3. Donc je pense qu'il n'y a pas beaucoup de... Enfin, moi je pense que ça va passer ric-rac, et que si ça passe par ric-rac, il y aura le 49.3.
Non, parce que quand tu dis je pense que ça va passer ric-rac, c'est si on n'invoque pas le 49.3. Si on invoque le 49.3, on ne saura jamais combien de personnes auront voté pour ou auront voté contre.
Le problème,
c'est 49.3, jusqu'à quelques dizaines de minutes avant de rentrer dans l'hémicycle, on peut réunir un conseil des ministres qui décide par décret de faire un 49.3.
Si jamais il y a un conseil des ministres qui est réuni jeudi matin, ce qui n'est pas normalement le jour prévu pour le conseil des ministres, croyez-moi, on le saura dès que...
Bien sûr. Mais ils peuvent se réunir à 14h pour une séance à 15h.
La seule option qui fait peur, c'est pas la discussion. Non. C'est ils y vont sans le 49.3 et le texte ne passe pas.
Bah oui.
Et là, on est dans une situation.
Tu peux le représenter une deuxième fois.
Mais alors là.
Tu plaisantes. Mais jamais ils vont faire ça.
Ça peut le représenter une deuxième fois. Ce qui turbine dans les cabinets ministériels en ce moment.
Bien sûr, ça s'est déjà vu.
Périgo, les gars, si il y a le 49.3, pour vous, la France est à feu et à sang ?
Non.
Bon, j'exagère peut-être.
Non. Non.
Mais non.
Alors le 49.3 est un outil totalement abusif. Oublions pas que cette constitution a été faite en octobre 58, à l'issue de 80 ans de parlementarisme, où les gouvernements tombaient tous les 3 mois ou toutes les 6 semaines.
C'est vrai.
Voilà. Et donc, le Jean Foyer et Michel Debré, qui sont les auteurs de la constitution sous l'autorité du général de Gaulle, prévoient ce texte où ils ne savaient pas quel genre de majorité ils allaient avoir, même si le scrutin était uninominal, donc plus la proportionnelle, donc propice à des stabilités plus nettes, des majorités plus nettes sur le plan de stabilité. On se disait, mais si ça continue comme dans la quatrième, il faut qu'on ait à un moment donné un ressort. Le problème, c'est que les majorités étant très nettes, on l'a quand même utilisé, effectivement. Alors en 67, il n'y avait qu'une voix de majorité, Pompidou et ensuite Rocard. On en a beaucoup abusé. C'est vrai que c'est un déni de démocratie. Et c'est ce qui fait dire à Mitterrand, mais non, c'est légal, constitution, c'est dans la constitution. Mais s'il y a un parlement qui est représenté, on n'a pas besoin du 49.3. Ou alors ça veut dire, je ne veux pas entendre ce que disent les députés, le peuple français, je passe au forcing. Quand on en fait 6 de suite, le 49.3, c'est exceptionnel, c'est ce que dit, c'est la crevaison, c'est la rustine. Non, mais évidemment, toi, tu fais partie du système, t'es ravi. Si avec toi, il y aurait que le 49.3.
Entre toi et moi, si tu fais partie du système, c'est pas moi.
Avec l'avril, il n'y aurait même pas de parlement, si on s'écoutait. Mais voilà, 49.3, c'est pas noble. Et une mesure, avec cette loi.
C'est
non, mais c'est un enjeu. Ils se sont tellement battus.
Mais Perico, l'équivalent du 49.3 au Sénat, c'est le 44.3.
Oui.
Okay, il a été utilisé 250 fois dans la 5e République, dont par des gouvernements de gauche.
Mais ça se voit moins.
Pour faire passer.
On s'en fout, le Sénat n'a pas le dernier mot. Le Sénat n'a pas le dernier mot.
Bah, non, si, mais aujourd'hui, c'est lui qui a écrit le texte.
Ce que je veux dire, c'est que ça fait partie des outils.
Montage, cato bourgeois. J'adore Bruno Retailleau, qui est un type extrêmement sympathique. Enfin, là, il est venu au secours d'un gouvernement parce qu'il a besoin de sauver une majorité. Enfin, là, ça veut dire que c'est une mesure de droite. Le drame, c'est que c'est une mesure de droite.
Bah ouais.
Elle a été droite. Mais oui, mais ils avaient expliqué que c'était Dussault a dit c'est une loi de gauche. Et finalement, elle va passer parce que la droite sénatoriale l'a légitimée et l'a validée. Okay. C'est un bordel sans nom.
Bon, en tout cas, ça fait beaucoup réagir ceux qui nous écoutent et ceux qui nous regardent. On a énormément d'appels au 32-16. On va commencer avec celui de Francis qui nous appelle de Nancy et qui est chef d'entreprise. Bonjour Francis.
Bonjour Estelle, bonjour à tous.
Bonjour Francis.
Francis, est-ce que pour vous c'est prendre un trop gros risque que de se passer de 49.3 sur cette réforme ?
Non, alors tout ça c'est du cinéma politique. Hein. La réforme va passer, qu'elle soit votée avec la...
Vous êtes médium, Francis ?
Comment ?
Vous êtes médium ?
Non, mais elle va passer. De toute façon, elle va soit passer par avec la complicité des Républicains, dont sur votre antenne la semaine dernière, l'un des députés républicains expliquait qu'on lui avait proposé de l'argent pour sa circonscription. Pour faire des choses dans sa circonscription en
des
échange de son vote. Donc il y aura peut-être un rond-point. Donc il y aura soit le vote par l'intermédiaire de la corruption et ou de la complicité des députés LR, soit il y aura un 49.3. Mais on s'en fiche, le problème n'est pas là. Vous confondez encore légitimité et légalité. Vous venez de dire les députés sont légitimes. La dernière élection d'un député en France, il y a quelques semaines, lui a donné un poste de député avec 9,5% des voix, des électeurs. Donc il n'y a aucune légitimité.
C'est un problème.
Les électeurs avaient qu'à se bouger pour aller voter. Ça, c'est pas la faute du député, c'est la faute des électeurs.
Si. Vous vous trompez complètement parce que la dernière fois, ça fait maintenant presque 20 ans que les électeurs ont compris qu'ils avaient le droit d'aller voter quand ça arrangeait le système.
Prenez
75% de participation, c'est-à-dire plus que pour ou contre le référendum, le traité constitutionnel européen, plus que pour le président de la République, 75% de 76% de participation, 55% de non, et on leur dit allez vous faire voir.
Ça n'est pas vrai, Francis. C'est totalement vrai.
Parce que dans le cas présent que dit Francis,
oui, il y a eu un référendum qui disait non au traité de Lisbonne ou je ne sais plus quoi. Sauf qu'il y a eu entre-temps une élection présidentielle où il y a un candidat à la présidentielle qui a dit si vous votez pour moi, je modifierai la constitution pour qu'on vous.
Mais c'est ignoble. C'est un truc de notaire, ça.
Il n'y a que quand le résultat vous est favorable.
Et puis là, la réforme des retraites, c'était dans le programme de Macron. Donc ça veut dire qu'on a tout pris. Or Macron a été élu parce qu'il fallait pas voter Le Pen.
Mais toi, t'es un élu de la majorité.
Comment tu peux sortir?
Excusez-moi, on pouvait voter au premier tour pour ceux qui proposaient la retraite à 60 ans. Sauf que ni Mélenchon, ni tous les autres n'ont été qualifiés pour le second tour. Donc le vote dont tu parles.
Mais vous êtes drôle. Mais vous êtes à mourir de rire. En plus, vous dites ça sérieusement.
Parce que tu n'as pas d'argument.
Le cynisme, ce n'est pas mon genre.
Francis parlait de corruption d'élus LR. Est-ce que ça peut arriver? Qu'on appelle
corruption
et qu'on dise
politique.
Effectivement.
Corruption politique.
Évidemment, on ne va pas lui dire je t'amène une mallette. Ça, ce n'est pas ça dont je parle. Est-ce qu'on peut dire pour ta région ou pour ton département, tu auras droit à 8 ronds-points ou l'école. L'école communale dont tu rêvais, on va la construire, etc. Arrêtez de fantasmer
sur les ronds-points. Un député qui est plutôt en disant je vais m'abstenir, on l'appelle pour lui dire ok, nous c'est important politiquement que ça passe, quels sont les sujets qui concernent au premier chef votre circonscription et qu'ils arrivent à trouver une solution. Oui, bien sûr, c'est de la corruption, la conviction, il a pas été corrompu, c'est comme ça que ça se fait.
Je dirais même c'est de la pédagogie politique.
C'est pas joli quand même.
Parce que le député, il est un peu con, il dit ben, ton scanner, on va t'obtenir ton hôpital ou ton arrêt de TGV. C'est pas la corruption.
En général,
ce genre de promesse, moi, je suis assez sceptique sur le fait d'y croire. Hein.
Exactement. Notre invitée sur ce débat, c'est Isabelle Véramasson, directrice de recherche au CNRS et politologue. Bonjour, Isabelle Véramasson. Merci d'être avec nous sur RMC. Alors, on parle évidemment, c'est une semaine cruciale, de cette réforme des retraites et le gouvernement qui dit qu'il ne veut pas passer par un 49-3. Est-ce que pour vous, c'est une erreur? Et est-ce que si le gouvernement dit ça, c'est parce qu'il est sûr que ça passe?
Non, je crois qu'il ne peut pas dire autrement. C'est-à-dire qu'on le sait, le 49-3 n'est pas très populaire, puisque c'est une manière de ne pas interroger les membres du Parlement, en tous les cas de l'Assemblée nationale. Donc, que peut dire d'autre le gouvernement que de dire on va éviter le 49-3? Mais écoutez bien les interventions, il y a toujours nous n'utilisera pas le 49-3, sauf si. Donc, le 49-3 ne disparaît pas des propos, mais il est considéré comme un pis-aller. Imaginez bien que si vous dites, écoutez, si ça ne vote pas, on fera le 49-3. Les gens qui hésitent en ce moment à voter pour la retraite, hein, les LR ou bien les députés Renaissance un peu hésitants, n'iront pas voter. Donc le gouvernement n'a pas le choix dans sa communication. Il doit dire qu'il ne veut pas utiliser le 49-3, même si, évidemment, et je ne vois pas pourquoi il le ferait autrement, il utilisera en cas de besoin le 49-3.
Mais est-ce que, Isabelle Véramasson, est-ce qu'on peut assister finalement à un conseil dans Koh-Lanta? Vous voyez ce que je veux dire? Dans Koh-Lanta, par exemple, vous avez toujours certaines personnes qui disent « Oh là là, je vais voter pour toi », etc. et qui, au dernier moment, ne votent pas pour la personne pour qui ils allaient voter. Est-ce qu'on pourrait imaginer que DLR, par exemple, pour faire tomber le gouvernement, disent par téléphone à celui qui appelle en permanence savoir s'ils vont voter « Oui, oui, t'inquiète, on va voter la réforme des retraites » et qui, au dernier moment, vont voter différemment pour faire tomber le gouvernement? Est-ce que ça, c'est un scénario possible?
Écoutez, la motivation que vous donnez, c'est-à-dire pour faire tomber le gouvernement, me semble assez peu probable. En revanche, les motivations sont multiples. Beaucoup, surtout, on voit la préoccupation de ne pas avoir l'air d'être des macronistes. C'est le problème de LR actuellement et depuis maintenant pas mal d'années. Ne pas être confondu avec le gouvernement, parce que si vous n'êtes pas, si vous êtes macroniste, pourquoi voter pour quelqu'un d'LR ? Donc il y a un problème politique qui est ancien, qui date pratiquement de l'ère Macron, et qui fait que les députés LR doivent se distinguer. C'est ça leur préoccupation. C'est pas de faire tomber, ou c'est pas parce qu'ils sont pas d'accord avec la ligne, etc. Moi, je crois vraiment qu'il y a cette question-là, qui est une question de vie ou de mort pour un parti. Donc, mais évidemment, pour revenir à votre question, on ne peut pas savoir, personne ne peut savoir donc, de quoi il fait le cœur d'un homme politique, et ce qu'il va décider de faire. Dans un sens...
Est-ce qu'un homme politique vote vraiment avec son cœur ?
Par exemple,
Je pense par exemple
que la menace de la dissolution peut très bien faire revenir les gens au bercail. C'est-à-dire les Renaissances voteront avec la Renaissance et puis les LR voteront derrière Éric Ciotti. Donc un même événement peut provoquer une chose et son contraire. C'est extrêmement difficile de se dire ce qui va se passer.
Alors vous dites les Renaissances, vous votez avec les Renaissances. On sent quand même que du côté de chez Renaissance, il y a certains députés qui n'ont pas très envie, de la signer cette réforme. Ah bah désolé, Jérôme. On sent pas tout le monde derrière Macron.
Et quand ils retournent en circonscription, ils sont allumés. Hein.
Oui, n'oubliez pas une chose, Estelle. Dans Koh-Lanta, les votes sont secrets. Ils sont dévoilés qu'après la fin de l'émission. Alors que là, on a le nom des gens. Donc on saura qui va voter. Donc c'est plus compliqué.
Oui, t'as raison. Je n'avais pas pensé à ça.
La politique n'est pas un jeu quand même. Même un jeu.
Exactement.
Oui, tout à fait. Quoique. Merci. Isabelle Béramasson, en tout cas, d'avoir été avec nous dans Estelle Midi. Oui, Jérôme.
Oui, parce qu'on fait tout un point sur le 49-3. Les deux dernières réformes des retraites, celle votée sous Hollande, la réforme Touraine, et celle votée par François Fillon sous Nicolas Sarkozy, ont toutes été votées par un 49-3.
Oui. Mais on va peut-être un jour le réformer, ce 49-3.
Et derrière, les gouvernements successifs d'une autre couleur ne sont pas revenus dessus.
C'est ce qu'a demandé un député écologiste, d'ailleurs, d'en finir avec le 49-3.
Bien sûr, retour à la 4ème République, bravo.
Non, il y a d'autres solutions. Soit pas binaire comme ça, il n'y a pas
le bazar.
Allez, on va terminer avec Christian, qui nous appelle de Toulon et qui est formateur en français, en langues étrangères. J'ai pas bien compris votre métier, mais enfin, Christian, votre avis sur le 49-3, ce serait une erreur de son passé?
Oui, bonjour Estelle. Oui, je suis formateur. J'enseigne à des étrangers, dont des mineurs qui arrivent d'ici et là, le français, les bases. Etc.
D'accord. Voilà, bien. Je vois marqué formateur en français, en langue étrangère. Donc effectivement, c'est un peu bizarre.
En langue étrangère, oui.
Très bien.
Français, la langue comme une langue étrangère pour des étrangers.
D'accord.
Voilà. Très bien.
Exactement. Ok. Super.
Donc, oui, le 49-3, ben, c'est pour moi, c'est pas tellement un gros risque pour le gouvernement, à mon avis, quand même. Il y a le fait que il y a la loi, tout simplement. Il y a des députés qui vont voter, et il est logique qu'on recourt au 49-3 si les choses sont difficiles à départager. Il me semble que c'est une bonne chose. De toute façon, que resterait-il du quinquennat Macron si tout simplement cette loi ne passait pas, je veux dire.
Et il me semble qu'est-ce qui va rester du quinquennat si on passe cette loi au 49-3?
Il a le bilan.
J'entends pas, monsieur.
J'ai dit, qu'est-ce qui va rester du quinquennat Macron si jamais cette réforme passe au 49-3?
Il restera que ce sera aligné sur la plupart des pays étrangers, la plupart des pays européens déjà. Et puis, de toutes les façons, il y a des évidences, le vieillissement de la population, le fait que, comment Estelle, moi je suis formateur actuellement, mais je travaille parce que je suis en retraite, je suis à 63 ans aujourd'hui, je suis en retraite, mais je travaille et je suis obligé de travailler parce que ma retraite est minime. Et il y a beaucoup de gens qui, comme ça, seront obligés de travailler, de continuer de travailler, même s'ils ne le veulent pas, parce que les retraites ne sont pas à la hauteur et qu'on ne peut pas vivre avec 1000 et quelques euros.
Mais ça, on est tous d'accord avec vous, Christian, mais il y a peut-être une autre réforme qui aurait pu passer. En fait, le problème, ce n'est pas tant de réformer les retraites que cette réforme qui ne plaît pas aux Français.
Elle est provisoire.
Aucune réforme des retraites n'a plu à aucun Français, sauf la dernière qui a été populaire, celle de 81, c'est quand on a dit vous allez passer de 65 à 60.
Mais c'est
la dernière fois qu'une réforme des retraites...
Mais celle-là n'est pas adaptée.
Faisons une réforme des retraites pour partir à 50 et tout le monde...
Celle-là n'est pas adaptée.
Et personne n'est revenu sur ces réformes de retraites qui étaient impopulaires. Même par les gouvernements qui étaient d'une autre couleur.
Alors, il faut une réforme. réforme des retraites, indéniable, mais pas celle-là, elle est mal faite.
Bah voilà.
Donc elle sera réformée le moment venu par une autre majorité. Et ça se passera très bien.
Bah, elle sera réformée, mais elle ne sera pas amendée. C'est-à-dire qu'on la gardera.
Ça
finira par une retraite à quoi à la carte.
Franchement, si vous voulez voter la prochaine fois pour quelqu'un qui vous dit votez pour moi, ça sera à 60 ans, votez, mais vous serez déçu rapidement.
Certains l'ont proposé quand même.
On va arrêter rapidement.
Toi, tu es sclérosé par ta culture politique. On va arrêter de parler d'âge. On va arrêter de parler d'âge.
D'accord.
C'est ça qui a tout bloqué. Est-ce qu'on peut faire une retraite?
Pas mal pour toi quand je parle d'âge.
Taisez-vous. On va remercier Christian, qui nous appelait de Toulon. Merci beaucoup Christian d'avoir été avec nous. On va terminer avec des messages, Rémi, et puis avec le résultat de notre sondage.
J'ai ce message plutôt optimiste pour le gouvernement de Mimo sur Direct Studio qui nous dit la réforme va être votée à 100% et les Français finiront par oublier de quelle manière elle a été et finiront par accepter. Voilà, qui se souvient qu'une réforme des retraites avait été votée en 2019,
à part moi,
avant le Covid, via un 49-3.
Les temps ont changé.
Le résultat de notre sondage.
Eh bien, le sondage, c'est 61% de ceux qui sont exprimés sur nos réseaux sociaux estiment que c'est un gros risque pour le gouvernement, quand même, de ne pas utiliser le 49-3.
On a hâte d'être à jeudi après-midi pour voir ce qui va se passer. On va continuer, bien sûr, à parler de cette réforme des retraites tout au long de la semaine dans Estelle Midi. Dans un instant, on va parler de l'inquiétude du jour, la pénurie d'eau. Il y a eu un hiver beaucoup trop sec. Est-ce que vous êtes prêts à vous rationner en eau, à faire des efforts, à changer de comportement? On vous attend au 32-16 et sur l'appli RMC. À tout de suite.
RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
Midi 32 sur RMC, RMC Story, vous êtes dans Estelle Midi avec toujours Rémi Barré, Perico Légas, Thierry Moreau et Jérôme Lavrieux. Et on va tout de suite s'intéresser à l'inquiétude du jour. Et cette inquiétude, c'est celle du ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu, qui a rencontré plusieurs préfets il y a quelques jours pour trouver des solutions face à la pénurie d'eau qui s'annonce. Plusieurs régions ont déjà pris des mesures en vue de faire des économies d'eau. Rémi, est-ce qu'on va pouvoir échapper au rationnement?
Ça paraît désormais improbable, car c'est déjà le dernier moment, là, au mois de mars, pour la recharge de nappes phréatiques en temps normal. La période située entre septembre et mars, elle est ce qu'on appelle la période de recharge. Les précipitations permettent de réalimenter en eau les nappes souterraines, mais passer cette date avec l'arrivée du printemps, il est déjà trop tard. Les températures grimpent et augmentent l'évaporation des précipitations. La végétation, elle repart, elle vient puiser l'eau dans le sol pour se développer. Les pluies qui tombent ne peuvent donc plus rentrer suffisamment en profondeur pour atteindre ces nappes souterraines. Enfin, les réserves en eau sont tellement basses depuis des mois, maintenant après la sécheresse de l'été 2022, qu'il aurait fallu un hiver très très pluvieux pour espérer recharger au moins suffisamment les nappes. Et c'est tout l'inverse qui s'est produit.
Alors, êtes-vous prêt à vous rationner en eau? Je vais commencer avec vous, Thierry Moreau. Je sais que vous faites pas mal de choses chez vous.
Oui, je l'ai déjà fait. C'est-à-dire que le fait d'avoir devant chez moi une pelouse, c'est pas vraiment une pelouse d'ailleurs, c'est pas un gazon anglais, mais un truc qui est un peu cramé l'été, c'est pas très grave. Voilà, l'herbe est cramée.
Je suis allé chez vous l'été, c'était pas du tout cramé.
Je vais pas arroser de mon champ sous prétexte que je veux que ça soit vert sous la fenêtre de ma chambre. Donc, ça, c'est le premier point.
Et votre piscine, en revanche,
Pardon?
Et votre piscine, en revanche.
Elle est pleine?
Elle est pas cramée l'été.
Elle est pleine, en fait. Et en fait, il y a juste quelques centimètres à rajouter, donc et je le fais avec l'eau du puits et je fais des réserves avec l'eau du puits, c'est-à-dire que quand il y a beaucoup d'eau qui coule sur mon toit, je récupère l'eau pluviale via une pompe de relevage pour remplir une réserve, et cette réserve je la garde pour ça et non pas pour arroser le potager. L'année dernière j'ai pas fait de potager à cause de ça, et voilà, puis c'est pas grave.
Et vous êtes prêt à faire encore plus d'efforts?
Oui, je pense que de toute façon c'est simple, il y aura trois types d'efforts à faire. Des efforts au niveau individuel, très clairement on sera tous obligés de faire des petits gestes, et les petits gestes les uns au bout des autres, ça fait des grands gestes. Il faudra aussi que les entreprises fassent des gestes. Il y a encore plein d'entreprises où, par exemple, les robinets dans les toilettes, c'est des robinets qui s'ouvrent et qui se ferment. Ici, à RMC, c'est des trucs automatiques qui s'éteignent dès que vous enlevez la main.
Les entreprises, c'est comme ça.
Mais je peux vous dire que beaucoup d'entreprises, encore, c'est des robinets normaux.
Ah bon?
Donc ça, c'est un truc tout bête, oui. Mais ça peut faire des économies importantes. Et puis, il y a les économies que peuvent faire les collectivités locales et l'État. Réforme du réseau. Alors le problème, c'est que c'est de l'argent qui est mis et qui ne se voit pas.
20% de l'eau du réseau qui s'évapore.
20%, 1 milliard de mètres cubes.
Oui, mais elle s'évapore dans la terre, donc à la limite, c'est pas
gênant. 1 milliard de mètres cubes. Mais elle va dans les rivières et ensuite dans la mer.
C'est un coût inutile, mais ça retourne dans les nappes.
Oui, enfin, pas toutes justement. Il y a une partie qui retourne dans les fleuves et ensuite dans la mer. Et puis la gestion des bassines. Une bassine, je suis désolé pour les agriculteurs, bien gérée, c'est-à-dire par exemple avec des textiles qui évitent l'évaporation de l'eau, c'est des bassines bien gérées. Quand je vois les les écolos qui gueulent dans le Marais Poitevin en disant que les bassines sont responsables de l'assèchement. Non, le Marais Poitevin, il est asséché parce qu'on a enlevé les haies, parce qu'on a enlevé les retenues, parce qu'on a enlevé les digues depuis 30 ans. C'est ça le problème du Marais Poitevin, je sais bien, j'en suis. Donc il faut se calmer un petit peu, bien gérer et avoir un courage politique de faire des choses au niveau collectivité locale, État, entreprise et particulier.
Perico, est-ce que vous seriez prêt à vous rationner, à faire des petits gestes, ou alors vous vous dites c'est à l'État de faire quelque chose, de surtaxer par exemple les gros consommateurs d'eau, de faire en sorte que le réseau soit mieux fait, et puis surtout qu'on réutilise l'eau. En Espagne, par exemple, il y a 50% de l'eau qui est réutilisée, je crois que c'est 5% en France, donc on a quand même des efforts à faire.
Espérons qu'il ne soit pas trop tard pour toutes ces mesures, parce que là, les indicateurs que l'on a sont quand même si on réagit, le GIEC, lui, considère quasiment que c'est plié, c'est-à-dire que même si on fait des efforts maintenant, c'est trop tard.
La FAO a dit toujours que c'est trop tard.
Oui, mais la FAO a dit qu'en 2050, si on continue comme ça, il y aura 2,5 milliards d'habitants de la planète qui pourront plus habiter sur place, ils auront plus d'eau pour boire. Donc ça va être des migrations épouvantables. Donc évidemment, je me demande même si l'effort personnel est suffisant. Il faut tout de suite... Mais des mesures, ce qu'a évoqué Thierry, le comportement personnel, c'est-à-dire couper l'eau sous la douche, quand on se lave les dents, effectivement, ce sont les petits ruisseaux qui font les grandes rivières et les grands fleuves.
Tu dis couper l'eau.
Mais dans le périgord vert, ils ont des mœurs particulières. Voilà. Périgord vert. Alors, le problème, c'est que vous avez des territoires français. Je connais bien la question. Vous êtes dans le Massif Central, il y a de l'eau à profusion.
Oui,
et très vite à côté, ensuite dans les plaines, vous n'en avez pas. Oui, alors, il y a une gestion de l'eau qui pourrait être faite sur des infrastructures meilleures de façon à ce que les zones les plus riches puissent partager avec les zones les plus pauvres. L'agriculture.
On va pas envoyer des citernes d'eau.
Non, mais on pourrait faire des formes de barrages ou des retenues d'eau. Il y a des bassines qui sont essentielles, d'autres qui sont un petit peu abusives. C'est juste pour une dizaine d'agriculteurs qui font du maïs, celles-là sont malins. Ouais. Mais il y en a qui peuvent sauver l'agriculture. Les eaux grises dans l'utilisation, vous voyez. Donc, en fait, il y a 1000 mesures à prendre. Bien sûr, un effort personnel, c'est évident. Nettoyer la voiture avec le jet d'eau, le potager, la piscine. La piscine, c'est pas ce qui mange le plus une fois qu'elle est remplie. Récupérer les eaux de pluie, il va encore pleuvoir un petit peu quand même.
Tu peux pas demander aux gens de faire des efforts sur leur douche ou effectivement sur leur lavage de dents et garder des piscines. Enfin, il y a un moment même si tu l'as remplie une seule fois, je suis désolée, je pense que toute ta piscine, ça fait toutes mes douches de l'année, tu vois.
Elle a été remplie il y a 10 ans.
Enfin, c'est pas la même eau qu'il y a 10 ans.
Bien sûr, un tout petit peu quand il y a une belle de chaque année.
C'est juste la remise à niveau.
Tu le soir, ça s'évapore pas.
Excusez-moi, vous ne videz jamais votre piscine.
Non. Il y a des piscines qui ont 50 ans.
Moi, si j'ai une piscine, c'est une coque en polyester. Mais non, mais si tu la vides, elle se pète, elle est détruite.
Au contraire, il faut la laisser pleine.
C'est pour ça qu'elle est
traitée. Et on rajoute 1 ou 2 centimètres par an.
Enfin, le problème, c'est les piscines. Non. C'est les piscines nouvelles que l'on crée dans les endroits où il n'y a pas d'eau. Là, ça va poser un problème. Enfin, donc, il n'y a que des solutions, ma chère Estelle.
Oui, enfin, on les voit pas venir non plus,
Et surtout, alors, décision collective et les pouvoirs publics. Je veux dire, c'est beaucoup plus grave que la retraite, l'eau. Beaucoup plus grave.
Mais oui, évidemment.
Il n'y a pas de 49.3 pour un. Mais là, c'est ça. Très.
Il y a un 49.3 qui est couperet, c'est que si on ne fait rien, on va avoir une sacrée sécheresse. Aïe. C'est ça le 49.3.
Et ça, c'est horrible, la sécheresse.
On peut pas lutter contre.
Mais on peut anticiper les choses. Moi, l'année dernière, je me suis fait avoir, j'avais plus d'eau dans mon puits, j'ai rien pu arroser, les légumes, quoi que ce soit, rien. Et bien, cette année, cet hiver, j'ai déjà installé 4 cuves de 1000 litres chacune, je suis à 4000, c'est juste de l'eau de pluie. Au pied d'une gouttière, vous les mettez en batterie et ça remplit les unes après les autres. J'en ai 4 en commande, je vais en mettre 4 supplémentaires. Donc on sera à 8000 litres, ça fait 8 tonnes d'eau quand même, qui vont être récupérées.
Faut faire venir les clients, ça n'ira pas.
Vous n'avez pas besoin
d'arroser grand-chose quand vous êtes en appartement.
Exactement.
Donc c'est proportionnel. Et ça représente une tonne d'eau, c'est 1 mètre par 1 mètre au sol. Donc ça va très bien, très vite à faire. Ce qui est débile, c'est que je ne l'ai pas fait les autres années, alors que j'aurais pu le faire. Et il me restait dans mes...
Vous êtes en autonomie en eau grâce à ça?
Je serai en autonomie en eau pour tout ce qui est hors usage domestique.
D'accord, ok.
Et c'est hors de question de se servir de cette eau-là pour les douches. Oui. Il faut que ce soit traité, etc. Il restait une seule salle de bain où il y avait une baignoire. C'est terminé. Maintenant, c'est juste la douche. Je vais mettre des réducteurs de pression sur les robinets, ce qui permet d'avoir autant d'eau, de se laver de la même manière, mais il y a moins de débit.
Non, c'est pas pareil.
Si, ça marche vachement bien.
Ça marche très bien, maintenant.
Le ressenti n'est pas le même.
Exactement pareil. Le ressenti, c'est plus léger de la douche. Vous pouvez ressentir un peu différemment pour sauver la planète, Estelle.
Si tu n'es pas au courant qu'il y en a, tu ne fais pas la différence.
Ah, si, totalement.
Tu ne fais pas la différence.
Si, tu fais bien la différence.
Mais non.
Si, si.
Et puis en plus, tu as l'impression d'avoir sauvé la planète, donc c'est vachement bien pour tout le monde. Donc ça fait plein de petits efforts. Et j'en reviens, tout le monde fait une fixation sur les piscines. Les seules piscines que tu vides au moins une fois par an, ce sont les piscines municipales. Absolument. Où tu fous toute l'eau dans l'égout, parce que pour des questions de respect de normes, oui, tu dois la vider parce que c'est en carrelage et tu dois tout nettoyer au chlore. Et en général, en plus, on s'arrange pour vider les piscines en pleine saison de vacances quand les gamins n'ont rien d'autre à faire, parce que comme il n'y a plus de scolaire, on les prive de piscine l'été.
Oui, c'est ce qui n'est pas très malin, évidemment. On a Pierre qui nous appelle de Montpellier et qui voulait réagir sur ce débat et qui est paysagiste en plus. Bonjour Pierre.
Toujours un plaisir d'être avec vous.
Ah, ben ça nous fait plaisir aussi, Pierre.
Alors, je vous annonce déjà la grande catastrophe, hein, la grande catastrophe qui arrive. Ça fait depuis des années que je le dis, j'essaie de faire la prévention autour de moi avec mon métier et puis vis-à-vis de mes proches. Et je vois que malheureusement, il n'y a rien qui avance.
C'est-à-dire
5 ans qu'on voit l'eau baisser. C'est pas la première année, hein. Ouais. C'est 4-5 ans qu'on voit les rivières, les nappes phréatiques baisser. Et malheureusement, il n'y a pas la réaction qui suit. Donc, on va vers la fin de l'eau dans les robinets. Enfin, on va connaître cet été, je pense. Il y a des milliers de Français qui n'ont plus d'eau dans les robinets. C'est sûr. Mais on aurait pu anticiper, si tu veux.
Vous n'êtes pas un peu alarmiste, là, quand même, Pierre?
Non, mais sinon, si tu peux aller voir en Guadeloupe, à Capesterre, ils n'ont pas eu d'eau l'année dernière. Pourtant, ils avaient vu venir aussi. Donc, si tu veux, malheureusement, ils font une société.
Mais en Guadeloupe, c'est une histoire de réseau. Hein.
Mais ils ont eu la sécheresse aussi, si tu veux. Mais il n'y a aucune réaction, si tu veux. Et ça fait bizarre quand les gens ont plus d'eau dans le robinet.
Oui, c'est sûr.
L'électricité, c'est pénible. C'est mais l'eau, c'est vous allez voir que ça. L'eau, c'est la vie. L'eau, c'est la vie. Donc quand on voit ce qu'on fait avec l'eau actuellement, le gaspillage, bon, c'est la prévention. Voilà, on essaie de plus. Mais on a encore des demandes, des gens qui veulent des gazons en plaques, des gazons verts, des arrosages. Là, je suis à Montpellier, quoi, dans une région où.
Oui, mais c'est-à-dire qu'en fait, les gens, ils ont un jardin.
C'est quoi, le Mont-Lozère qui nous alimente, mais il y a des régions, ils n'ont pas cette eau-là.
Oui, mais Pierre, vous dites aux gens qui ont un jardin, il faut arrêter le gazon.
Eh bien oui, il faut passer sur du minéral, sur du synthétique. Oui, c'est pas pareil, mais on n'a plus. Ou alors, il faut une grande réserve d'eau, mais ce n'est pas 1 mètre cube ou 2 mètres cubes qu'il faut. C'est 10, 20, 30, 40 mètres cubes. Et actuellement, toutes les maisons et lotissements qui se font, il n'y a aucune réserve d'eau, il n'y a que de chips. Je veux dire, on est comme dans les années 50, tout va bien, continuons, et puis quand ce sera la crise, eh bien, on verra.
Mais Pierre, quand vous avez un client qui vous dit, par exemple, j'ai un jardin, j'ai n'importe quoi de 400 mètres carrés, et j'ai envie de planter du gazon, vous leur dites, non, c'est pas ce qu'il faut.
Déjà, on leur explique ce qui va se passer, c'est que ça sera interdit d'arroser les gazons, de toute façon. Ouais. Et en plus, c'est très très facile de contrôler les gazons, il suffit de faire passer un drone, et c'est très très rapide.
Ouais, bien sûr.
Quand tout est jaune et qu'il y a un endroit vert.
Oui, qu'il y a un endroit vert, oui, c'est mort.
Donc vous avez balancé du pognon pour rien, parce que dans les années à venir, votre gazon, il va griller. On essaie de dissuader, mais pour les plus têtus, on dit, faites appel à une autre entreprise.
Carrément.
Oui, moi j'ai 27 ans, j'avais mon métier, j'avais qu'il y ait du sens. J'ai pas envie de faire les mêmes erreurs.
Surtout qu'il y a des moyens de faire différemment.
Bah, bravo Pierre, en tout cas.
Bien sûr, on est dans une région, on a des super plantes, en Méditerranée, on a des jardins secs, c'est très joli.
Pour jouer au foot, c'est moins bien. Bah oui, mais regardez.
Il y en a, ils débarquent peut-être dans les endroits où il pleut, ils débarquent ici, ils pensent que c'est l'abondance.
Mais le rêve français, c'est aussi avoir un petit jardin avec du gazon, un petit but et tout pour que les gamins ils jouent au foot. Enfin voilà, ça fait partie.
Après, il faut, comme je t'ai dit, il faut des réserves d'eau, il faut calculer. L'eau de pluie, quand même, sur les toitures, moi je le fais. Je récupère l'eau de pluie et à Montpellier. Et je récupère énormément d'eau. C'est des mètres et des mètres et des mètres cubes. Il ne suffit pas beaucoup, même un orage. Ça vous réalimente quand même.
Et c'est important de.
Il faut pousser, il faut que les gens vraiment investissent dans les réserves d'eau, moi je dis.
Ça coûte combien un récupérateur d'eau?
170 euros.
Les petits réservoirs d'un mètre cube, c'est 160-200 euros. Donc c'est pas donné.
Les tonnes à eau, les trucs carrés, blancs et métalliques, c'est 173 euros.
Oui, c'est ça, ouais, entre 150 et 200 euros.
Ça permet d'économiser de l'eau pendant tout l'été. C'est rapidement rentable. Merci Pierre, en tout cas, d'avoir été avec nous. Et puis bravo pour tout ce que vous faites. Alors on va voir si les Français, en tout cas nos auditeurs et nos téléspectateurs, seraient capables de se rationner en eau, Rémi, pour la planète.
Pas rassurant, hein. Ah. 61% de ceux qui sont prononcés sur nos réseaux sociaux ne sont pas prêts à faire des efforts, en tout cas pas prêts à se rationner.
Allez, dans un instant, le grand retour d'Anthony Morel dans Estelle Midi, et il va nous parler d'une révolution. C'est toujours un peu embêtant de recharger son téléphone portable, vous savez, on n'a jamais de chargeur, etc., etc. Et bien là, il va nous parler d'une technique qui permet de recharger son portable juste avec de l'air. A tout de suite dans Estelle
Midi. Donc c'est pas avec de l'eau.
RMC, midi 15h, Estelle Midi,
Estelle Denis.
Midi 49 sur RMC, RMC Story, vous êtes dans Estelle Midi et c'est l'heure du grand retour d'Anthony Morel dans l'émission. On n'arrête pas le progrès, c'est parti.
RMC, Estelle Midi.
On n'arrête pas le progrès.
Et Anthony, aujourd'hui, vous revenez sur le plateau avec une révolution. On va parler de charge de téléphone portable. On sait que c'est souvent compliqué, on n'a jamais de chargeur. Ça tombe toujours en panne, enfin, c'est en rate de batterie. Ça, au vrai. Moment où on en a besoin, bien sûr. Mais grâce à vous, Anthony, on va désormais pouvoir charger notre téléphone grâce à l'air que l'on respire.
Exactement. C'est des chercheurs australiens qui ont trouvé le moyen de produire de l'électricité à partir de l'air qui nous entoure, tout simplement. Ils ont publié ça il y a quelques jours dans la revue Nature, une revue scientifique très prestigieuse. Leurs expériences, ils nous disent, voilà, on va pouvoir, à partir d'air, recharger des téléphones, des ordinateurs portables ou des appareils électriques. Tout part, en fait, d'une bactérie. Une bactérie qu'on trouve dans le sol, voilà, qu'on peut cultiver en laboratoire aussi assez facilement. Et cette bactérie, elle a une propriété extrêmement intéressante. C'est qu'elle capte l'hydrogène qui se trouve dans l'air qu'on respire. Dans l'air qu'on respire, il y a un petit peu d'hydrogène, il y a un tout petit peu d'hydrogène. Elle le récupère et elle le transforme en énergie. C'est ce qui permet à cette bactérie de vivre et même de survivre dans des environnements extrêmes, par froid extrême, etc. Et donc ces scientifiques, ils se sont dit, c'est malin, on va essayer de répliquer ce que fait cette bactérie dans la vie réelle en laboratoire. Et c'est ce qu'ils ont fait et ils sont parvenus à mettre au point ce qu'on pourrait appeler une pile naturelle, c'est-à-dire une sorte de batterie qui, à partir du moment où elle est en contact de l'air libre, va produire de l'électricité. Donc on pourrait s'en servir. Alors pour
donc on mettrait ça dans notre téléphone.
Par exemple, ça pourrait être les futures. Alors ça va prendre des années, hein, je pense, mais futures batteries. Bah oui, c'est pas pour demain. Là, ça vient d'être publié dans Nature. Alors c'est vraiment, on est dans la phase laboratoire. Après, il va falloir comment on peut industrialiser tout ça. Mais on peut imaginer que d'ici quelques années, eh bien les industriels mettent au point des batteries qui pourraient, à partir de l'air qu'on respire, eh bien recharger le téléphone de manière totalement naturelle.
Mais ça veut dire par exemple, en fait, qu'on aurait plus besoin de chargeurs pour tous nos appareils électroniques.
Il suffirait de les laisser dans le jardin, n'importe où. Dès qu'il y a de l'air, ça peut se recharger. Alors, encore une fois, tout ça va prendre du temps. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a plein de pistes de recherche comme ça pour nous débarrasser des chargeurs. Là, je vous en ai donné une, mais il y en a pas mal d'autres. Par exemple, il y a des brevets qui ont été déposés pour des smartphones solaires, donc avec des cellules photovoltaïques dans l'écran, transparent.
Non, il ne faut pas habiter dans le Nord.
Il y a des petites inégalités, ça vous avez raison. Quand il fait pas beau, on est un petit peu embêté. Mais enfin voilà, c'est un autre exemple. Le téléphone va se recharger comme ça. Vous avez aussi des brevets pour. Alors ça, c'est des chercheurs qui travaillent là-dessus. Recharger le téléphone simplement en récupérant l'énergie quand on tape sur son téléphone, quand on touche.
Le mien, il serait à plus de 100 tout le temps.
Mais je sais bien. Si vous envoyez comme SMS, parce que le machin, il se décharge jamais. Donc c'est pas mal. Ou alors, c'est le truc le plus fou. C'est l'université Queen Mary à Londres. Ils travaillent sur récupérer le bruit qui nous entoure, c'est-à-dire transformer les vibrations sonores en électricité. Donc s'il y a beaucoup de bruit autour de vous, des voitures, des gens qui parlent très fort,
moi je mets mon téléphone à côté de Périco en permanence.
Exactement, voilà. Vous mettez
comme à côté du Périco.
Je lui laisse une soirée, ça le recharge pour un an.
Je pense qu'en tout cas pendant l'émission, les téléphones se déchargent pas. Il y a pas de
pile permanente, moi.
C'est ce que je suis en train de dire, Périco.
Non, mais c'est quand même dingue. C'est-à-dire que potentiellement, ça veut dire qu'on va avoir un avenir où on n'aurait plus besoin de se balader avec ces fameux chargeurs dont on n'a plus envie, quoi, tout simplement.
Mais alors, ce qu'on aimerait aussi, avant que votre innovation soit au point, parce que manifestement, ça va prendre quelques années, c'est qu'au moins on puisse recharger nos portables beaucoup plus rapidement. Quand ça prend 3 heures, c'est embêtant.
Alors, ça s'est beaucoup amélioré ces dernières années. Vous avez peut-être d'ailleurs aujourd'hui des systèmes de charge ultra rapides sur certains modèles.
Ils se déchargent très vite.
Alors, c'est vrai qu'ils se déchargent très vite, mais vous pouvez les recharger en une demi-heure chrono pour les meilleurs modèles aujourd'hui, hein, de 0 à 100%. C'est pas mal quand même. Puis vous rechargez quand même relativement rapidement.
Ça abîme pas la batterie quand ça recharge.
Normalement, c'est fait pour. Alors, vous avez raison, il faut faire des tests sur plusieurs centaines de cycles, mais en théorie, ça tient bien. Alors là, il y a un truc qui a été présenté il y a quelques jours. C'était le grand salon du mobile à Barcelone, le Mobile World Congress. Et ils ont présenté, alors c'est une marque chinoise, un truc de fou. C'est une batterie de téléphone qui se recharge en 5 minutes chrono. C'est-à-dire de 0 à 100% en 5 minutes chrono. Vous le voyez, en fait, vous voyez les pourcents qui augmentent avec les secondes. C'est très spectaculaire. Le temps de prendre un café, vous avez refait la moitié de votre batterie. Donc là, on a tous été dans cette situation. Vous allez partir au boulot et vous vous rendez compte, mais il me reste 5% de batterie, je ne vais pas pouvoir tenir la journée. Là, vous le mettez 2 minutes à charger, vous avez la moitié de votre batterie pour la journée.
Et ça c'est quand même
pas mal. Alors, on n'a pas le prix pour l'instant, c'est pas encore sorti. Mais ça va. Non, mais ce sera pas. A priori, ce sera pas plus cher. C'est les batteries qui seront. En fait, c'est un avantage concurrentiel pour les fabricants de smartphones. Aujourd'hui, ils sont tous en train de se battre pour vendre leur téléphone plutôt qu'un autre. La bataille, elle se fait sur un appareil photo 2 mégapixels en plus. si vous avez un vrai avantage avec une batterie qui se recharge en 5 minutes, là, je peux vous dire que votre téléphone, vous allez le vendre à des millions d'exemplaires. Donc, très clairement, ça va être très intéressant là, dans les mois qui viennent, puisque normalement, ça devrait sortir assez rapidement.
Merci pour toutes ces infos, Anthony. On vous retrouve évidemment tous les jours, 12h50, dans Estelle Midi, et puis en podcast, à toute heure du jour et de la nuit, sur rmc.fr, sur l'appli RMC, et sur toutes vos applis de podcast. On parle de quoi demain, Anthony ?
Demain, on va parler poubelles.
C'est l'actu.
Ouais. Alors, on va parler de poubelles intelligentes qui pourraient réduire la quantité de détritus qu'on a.
C'est un broyeur votre truc.
Non, ça c'est pas un broyeur. Il y a plein de choses. Alors elle se vide pas encore toute seule, mais en tout cas, on va pouvoir limiter la quantité de détritus qu'on a traité.
Eh bien très bien, on parlera poubelle demain avec Anthony Morel. Dans un instant, on va parler de l'Allemagne qui a décidé de supprimer la plupart de ses ZFE, les zones à faible émission. Est-ce qu'il faut qu'on fasse la même chose en France ? À tout de suite sur RMC.
RMC midi 15h.
Estelle Midi.